Et bon, ben, bienvenue à tous. Mm-hmm. On est vraiment heureux de vous recevoir pour cette nouvelle année qui commence. Une page blanche que nous allons tous remplir avec plein de choses, de bonnes choses. Hein, cette année. Plein de bonnes résolutions, des bons projets. Et puis surtout des bons moments fraternels. Hein, passer ensemble, ça nous fait plaisir de vous accueillir tous les lundis. Ça nous manque pendant les vacances. Hein. Vous nous manquez. Le lundi, je dis vite, vite, il faut préparer. Ah ben non, pas vacances. Bienvenue à tous. Vous avez passé des bons moments familiaux. Voilà. Sullivan, tu as été accueilli par des amis, je crois, pour la Noël. Hein. C'est bien, c'est chouette.
Et aussi ici à
chez les voisins.
Ça, c'est le flair en plage.
Ah oui, oui, oui.
Il a fait trop de monde. Pour
il est très demandé maintenant. Il est très demandé, Sullivan. C'est bien. Tu as des bonnes nouvelles de la famille?
Ils vont tous bien. Oui. Ils vont tous bien. Et puis, il faut se dire, continuer. Ah oui.
Oui, il faut continuer, espérer. Et les choses vont avancer, hein, c'est sûr.
Oui,
c'est sûr. Ok, bienvenue à
chacun. J'ai obtenu les papiers.
Pardon ?
T'as obtenu déjà le papier officiel ?
Non, j'attends, okay. j'attends.
Oui, ça, il y a eu les fêtes. Hein, donc,
les fêtes. L'administration.
Les fêtes, ça dure tout le mois de juillet.
Ici, il n'y a pas de boîte à biche, sinon ça irait plus vite. Mais...
Sullivan a commencé les démarches pour une location, mais aussi pour chercher une location, mais aussi pour la procédure de regroupement.
Oui.
Et c'est un sujet de prière parce que ce n'est pas facile.
Non.
Tout n'est pas facile.
Non, c'est pas facile.
Donc, si le Seigneur est derrière, on peut attendre longtemps.
Oui, donc voilà. On en fait toujours un sujet de prière. Okay. Bien. Pour les cartes, je ne sais plus comment tu précèdes.
Bon, on va faire tout à l'heure.
Ah, c'est après. Si on est sage.
Oui, c'est ça. Si on a été bien sage, qu'on a bien participé, on pourra peut-être repartir avec une carte.
Il est méchant.
Ah oui.
C'est le système des bons points. Ok, donc on n'a pas notre lectrice attitrée ce soir. Donc si quelqu'un. Si quelqu'un se sent le courage. Donc je rappelle qu'on entame la péricope sur la vision de Pierre, qu'on ne traite pas en entier parce que ça aurait été un peu trop long, et qu'on va faire la lecture donc à partir du verset 9 au 10e chapitre, jusqu'à 18 inclus. Voilà. Oui, merci.
Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre.
Ok.
Excusez-moi.
Bon.
C'est bon.
Trouver. Ouais, on voit qu'elle était sourde. Hein.
Il y en a d'autres.
Oui, c'est un sujet.
Il y en a d'autres.
C'est pas sourd, tu parles pas fort assez.
Voilà.
Merci. Vous savez bien, c'était ça.
Ou il parle trop vite, ou il parle trop bien.
On est brûlé.
Ok.
Donc, la lecture est en fait. Alors, vous vous rappelez sans doute que j'avais parlé de vision croisée il y a peut-être deux réunions de cela. Donc on se trouve devant la version bis, on va dire, des révélations de Dieu, la première fois à Corneille et maintenant à Pierre, pour permettre justement la jonction entre les deux personnages. Donc lui aussi, Pierre, est préparé à cette rencontre avec Corneille grâce à cette vision spécifique que nous commençons à étudier ce soir et qui a un lien avec l'avenir, le jeu qu'il va devoir jouer à l'avenir par rapport aux païens en particulier. Et pour que ce soit possible, pour que l'élargissement aux païens soit possible, Dieu va briser les résistances de Pierre, notamment celles qui ont trait au respect de la loi. Puisque vous vous rappelez, dans l'histoire, il faut manger des animaux impurs, bon, ça pose problème. Et ce récit est tellement important que, je ne sais pas si vous l'avez vu dans votre étude du texte, il va être répété. Donc il y a un premier récit ici au chapitre 10, et puis Pierre lui-même va le raconter plus tard, d'abord aux apôtres, au chapitre 11, et encore un peu plus tard au chapitre 15. Et en général, quand Luc utilise les répétitions, c'est pour souligner l'importance de la révélation qui est faite, par exemple, ici. Hein. Donc l'idée, c'est tellement important que cette rencontre avec Corneille ait lieu, qu'elle va tenir lieu de vision missionnaire pour demain, ce qui va faire qu'en dehors de Judée-Samarie, l'évangile va se répandre comme une traînée de poudre à partir de cet instant-là. Voilà. Alors, petit rappel peut-être, puisqu'on nous dit dans le texte, verset 9, que Pierre a une vision. Je voudrais quand même rappeler, parce qu'on l'a déjà dit, mais je pense qu'il y a au moins deux réunions de cela, les distances qui existent pour qu'on ait quand même ça en tête. Donc entre Césarée, où se trouve Corneille, et Joppé, où se trouve Pierre, il y a quand même 49 kilomètres le long de la côte, soit environ 12 heures de marche à pied, peut-être moins si Corneille avait doté ses serviteurs de chevaux, mais on n'en est absolument pas certain. Et quand bien même ils auraient utilisé des chevaux, ils auraient dû s'arrêter pour la nuit, car on ne galope pas la nuit. Hein, c'est pas éclairé, il n'y a pas des réverbères tous les 100 mètres, histoire de dire c'est là que la route se trouve. Donc nécessairement, s'il n'y a pas une pleine lune, on s'arrête, on dort la nuit, etc. Et d'ailleurs, si vous l'avez peut-être fait attention, dans des versets qu'on n'avait pas étudiés pour ce soir, versets 23-24, on retrouve le même timing. C'est-à-dire que quand Pierre fait le voyage vers Césarée, ça dure aussi 2 jours. Pour la petite histoire, donc, pour ceux qui savent bien compter, 4 jours se seront écoulés entre la vision de Corneille et l'envoi de ses serviteurs et le retour de tout le monde à Césarée. Voilà, dans la 4e journée, la rencontre aura lieu. Mais on n'y est pas encore. Voilà. Alors, j'avais posé un certain nombre de questions, plus ou moins pertinentes, je suppose. Qu'est-ce que Pierre va faire sur la terrasse, c'est-à-dire sur le toit de cette maison? Je pense qu'on avait déjà parlé un peu des toits.
Oui, des toits plats.
Ce qui est étonnant, c'est que c'est sur le coup de midi, il doit faire chaud à ce moment-là.
Oui, mais il fait peut-être moins chaud que dans la maison. Ah. Bon, n'oublions pas que là, on est déjà en bordure de mer. Hein. Donc il y a toujours du vent.
Brise marine. Voilà.
Mais il faut savoir que les maisons de l'époque, sur le territoire de Judée-Samarie, c'est des maisons avec très peu d'ouverture. Donc quand elles sont chaudes, c'est un peu comme en Afrique, ça reste chaud. Et il vaut mieux dormir dehors que dormir dedans. Donc les toits plats étaient faits en partie pour y passer la nuit à la saison très chaude. Mais en même temps, la journée, il y avait souvent une espèce d'auvent, si vous voulez, donc une toile tendue pour se protéger du soleil. Mais pas seulement, c'est parce qu'en fait, les toits plats servaient aussi à sécher des légumes, enfin des aliments, on va dire en général. Ça pouvait être des légumes, ça peut être de la viande, du poisson, peu importe, pour faire des conserves pour la partie de l'année où il n'y a pas tout ça sous la main. Et notamment les légumes qu'on séchait, c'était souvent les légumineuses, c'est-à-dire tout ce qui était haricots, fèves, etc., pour avoir un stock pour passer tout l'hiver. Voilà, donc ça explique un petit peu les toits plats. Et donc il monte sur ce toit, comme tu le dis, aux environs de midi. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il nous a dit qu'il monte pour prier.
Mmh. C'est pas une habitude.
Ce n'est donc pas vraiment une habitude, puisque les prières ont lieu quand, d'après vous ? Dans le milieu du judaïsme, il y en a trois par jour, hein, globalement.
Plutôt le matin,
après le lever du soleil, vers 15h, on va dire dans l'après-midi, et puis le soir, avant le coucher du soleil. Souvent basé sur le rythme des rites du temple. Donc tout ce qui était offert au temple correspondait à un moment de prière que tout Israël respectait, où qu'on soit, même si on n'était pas à Jérusalem. Et donc c'est assez étrange. On peut se demander pourquoi Pierre monte sur le toit pour prier en plein midi. D'autant qu'avec beaucoup d'humour, le texte nous dit qu'il avait déjà la dalle. Hein. Il est déjà très fin. Il avait déjà très faim. Et sans doute que, puisqu'on est en train de lui préparer un repas, le texte grec laisse entendre qu'il y a quelques-uns qui préparent en cuisine, sans doute en bas, dans la cour ou dans la maison. Et peut-être lui qui est sur le toit sans
les bonnes odeurs
de la cuisine qu'on est en train de préparer. Et comme on est en bord de mer, vraisemblablement, il ne devait pas manquer de poisson nécessairement pour manger. Et donc, vers midi, au moment du repas, il monte pour prier sur ce toit de la maison qu'il habite. On peut en déduire en tout cas une chose. C'est que Pierre a ressenti, ou ressentait, peu importe, le besoin d'une sorte d'aparté, un aparté supplémentaire, en dehors des heures officielles de prière, d'un aparté avec le Seigneur, sans doute dans le cadre de toutes ses activités, c'est-à-dire de sa tournée, de la tournée dans laquelle il est lancé dans les églises de Judée. Je suppose qu'il rencontre suffisamment de problématiques, entre guillemets, que pour vouloir s'isoler, parce que c'est aussi ça. L'idée de monter sur le toit, c'est de ne pas être avec les autres. C'est de pouvoir être seul et de vaquer à des prières qu'il a envie de faire. Donc ça nous indique déjà un petit peu la trempe aussi de Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui s'adonne à fond à ce dont il est convaincu. Et comme il est lancé dans un travail missionnaire et pastoral, sa tournée des églises, eh bien, il prend du temps pour prier. Et donc au verset 10, on nous dit ben voilà que le texte grec est très fort puisqu'on nous dit « il devint affamé ». Ça, c'est le grec qui le dit. Mm-hmm. Hein? C'est pas rien. Donc il sait qu'on lui prépare à manger, mais en plus, voilà que ça se réveille très fort pour lui. Et c'est à ce moment-là, assez étrangement d'ailleurs, à un moment très matériel où il a faim, où il aurait envie de manger, que une extase le surprend. Je ne sais pas ce que vous avez comme traduction dans vos textes.
Il tomba en extase.
Voilà. D'accord. Donc l'idée, en tout cas, c'est que c'est inattendu. Ce n'est pas quelque chose qu'il a recherché. Il ne prie pas pour tomber en extase, par exemple. L'extase survint. À un moment auquel ne s'y attend pas. Et vous allez voir que cette extase va se mettre un petit peu en conformité avec sa faim, avec son besoin de manger. Parce que ce qu'on va lui proposer dans cette vision, c'est justement de manger. Donc, profitant de la faim de Pierre, le Seigneur trouve le bon filon pour lui adresser ses recommandations, sa vision. Alors, il faut savoir que le mot « extase » en grec, c'est un mot très peu courant dans le Nouveau Testament. Donc, on l'utilise essentiellement dans les Actes, deux ou trois fois, mais en dehors de ça, pas vraiment. Et du coup, ben, ça a fait couler beaucoup d'encre, parce que c'est quoi une extase, finalement, pour le Nouveau Testament ? Puisqu'on n'a pas immensément de versets pour pouvoir faire une synthèse et dire « voilà, l'extase, c'est ceci, c'est cela ». On pourrait dire, si on prend le mot grec tel qu'il est, « ekstasis », c'est une sortie hors de soi. C'est comme si, c'est comme, oui, c'est comme si exactement, ou Étienne, etc. Hein, c'est comme si on était coupé de sa réalité, puis on entrait dans autre chose. Une sorte de dépaysement, on est transporté ailleurs, si vous voulez. En tout cas, ça indique un dépaysement total lié au phénomène lui-même de la vision. Ou par exemple le fait d'être spectateur d'un événement qui peut se situer même hors du temps. Je pense à certains prophètes qui tombent en extase, effectivement, et puis ils voient des choses qui vont se passer dans 2000 ans. Voilà, hein, comme tous ceux qui ont annoncé le Christ, par exemple. Voire même, et je pense à Paul, l'extase, ça l'a conduit au 7e ciel, c'est-à-dire dans un univers qui le dépasse, qui il n'y a que les astronautes qui vont au ciel, vous voyez. Donc là, il se passe des choses tout à fait différentes du commun des mortels et du quotidien. Et du coup, on doit en tirer quelques conclusions quand même, c'est que lorsque le Saint-Esprit nous ouvre à cette expérience, ce ne sont plus les cinq sens qui fonctionnent. Donc ce n'est ni la vision, ni l'ouïe, ni l'odorat, ni quoi que ce soit. Ça se passe complètement dans une sorte de révélation spirituelle, c'est-à-dire au travers de l'esprit même de celui qui voit. Hein ? D'ailleurs, les prophètes, Nabi en hébreu, par exemple, dans l'Ancien Testament, ça veut dire le voyant, celui qui voit quelque chose, mais qui voit quelque chose par l'esprit, donc pas du tout par les moyens normaux, les canaux normaux par lesquels nous découvrons le monde, par exemple. Alors on peut se dire que l'extase, pour ce qui est des textes des Actes, par exemple, dans le milieu chrétien, c'est une manifestation divine, mais c'est une manifestation qui n'est pas recherchée. C'est-à-dire, on ne la recherche pas, on ne supplie pas Dieu d'adresse-moi une extase, s'il te plaît. Elle n'est pas provoquée non plus par des substances, comme c'était le cas dans les cultes païens, où on fumait un peu de haschich, on prenait 2-3 litres d'un cidre quelconque, et puis une fois qu'on était bien guilleré, ben, l'extase survenait, souvent accompagnée d'ailleurs de musique intentionnelle qui provoque la transe, hein, par exemple. Donc, une extase dans ce milieu chrétien, c'est une révélation divine qui te parvient à titre personnel et qui te permet de comprendre peut-être ce que tu dois faire, la volonté de Dieu, par rapport à demain. Maintenant, ça c'est ce que le texte nous dit au verset 10, voilà que l'extase tombe sur lui, ou le surprend, si je choisis le grec pour être plus conforme. Et à ce moment-là, ce qui est bizarre, c'est qu'au verset 11, on découvre que ça se passe comment ? Au moment où il est... Oui, donc
il
voit le ciel ouvert ou les cieux, ça dépend des traductions. Mm-hmm. Ça vous avait fait penser à quelque chose, je suppose.
Oui. Hein. Qu'est-ce que c'est ?
Oui.
Quand vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre dans Jean 1, 51.
D'accord. Alors il y a Jean 1, effectivement, 51, qui est très intéressant, qui annonce d'ailleurs que Jésus qui annonce à ses premiers disciples, il leur dit un jour, vous savez, ben vous verrez les anges de Dieu monter et descendre, comme pour authentifier, si vous voulez, le côté messianique des choses. Mais plus près de nous, dans le texte, il y avait, je crois que c'est toi, Elisabeth, qui l'a dit, Étienne a fait la même expérience, à un moment d'ailleurs crucial, hein, au moment où il allait être éliminé, au chapitre 7, 56. On découvre que juste avant d'être lapidé, il a lui aussi une révélation plutôt consolatrice, on va dire, plutôt espérante. Voilà, je sais que je vais mourir, mais le Seigneur m'apparaît et ça me console d'une certaine manière. Et bien sûr, si on voulait faire toute la Bible, on pourrait trouver de nombreux textes. Le premier étant celui de l'histoire de l'échelle de Jacob, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans Genèse 28, où Jacob lui aussi voit des gens qui, hein, des anges en fait, qui montent et descendent le long de cette échelle qui monte aux cieux en réalité. Et vous remarquerez qu'on retrouve à chaque fois un peu cette idée de montée, de descente. Hein.
Donc c'est dans les deux sens.
D'ailleurs, oui, exactement. Donc ça peut nous faire penser à quoi ?
Je sais pas, la montée et la descente de Jésus, peut-être aussi.
si tu veux. Alors, on va continuer avec le texte, on trouvera peut-être la réponse dans un moment. Donc, on a aussi un texte dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 1, qui nous dit que les cieux s'ouvrent et que les visions apparaissent, si vous voulez, voilà. Et c'est Ézéchiel qui fait cette expérience. Ésaïe, lui, à un moment, il déclare au chapitre 64, verset 1 et 2, « Si tu déchirais les cieux et si tu descendais. »
Ésaïe, combien tu dis ?
64, verset 1 et 2. Où là, on a vraiment la révélation par excellence de la venue du Messie, si vous voulez. Puis globalement, les évangiles nous offrent plusieurs textes où le ciel s'ouvre, par exemple au moment du baptême de Jésus, hein, tout simplement. Jean 1, 51, dont tu as parlé. Apocalypse 4 aussi, où on voit une porte ouverte dans le ciel, dit Apocalypse 4, verset 1. C'est donc qu'il y a quelque chose à aller voir. Hein, voilà. Et puis en Apocalypse 19, 11, tout à fait vers la fin, on a la vision du cheval blanc et de son cavalier, le fidèle, le véritable, qui juge et qui combat avec justice, qui aussi, c'est une ouverture du ciel qui permet de voir cette vision. Dans tous les cas, il y a un peu cette idée de monter, d'aller voir et, ou de descendre, comme la toile ici dans la révélation qu'on étudie. Ça indique un mouvement, mais pas que, ça indique surtout la communication. Communication entre le ciel et la terre. Et il faut savoir que Jean 1,51, par exemple, c'est une manière de nous dire que pour les croyants, désormais, la communication avec Dieu va devenir permanente, grâce au Christ. Donc, il n'y a plus l'obligation de passer par un prêtre, d'aller au temple à Jérusalem, etc., pour avoir une communication avec Dieu. Tous les croyants vont pouvoir bénéficier d'une espèce de ligne directe avec le Seigneur. Donc ça, je pense, c'est assez important de découvrir, au travers de cette expression, le ciel ouvert. Il y a cette idée d'accessibilité et de communication directe. Et puis voilà, il y a le contenu maintenant de cette extase, de cette vision. Et là, c'est un peu plus compliqué. Alors, je ne sais pas ce que vous aviez comme traduction. Moi, dans la TOB, j'ai le mot toile immense.
Une nappe.
Ok. Une
grande coin.
D'accord.
Il y a marqué grande.
Moi, alors, oui, grande. J'ai vu qu'on parlait aussi d'une idée d'un vase.
Oui.
Comme d'un vase.
Oui.
Qui serait attaché par quatre. On mélange apparemment l'idée du vase et d'une nappe.
Oui. Alors que le grec nous dit un petit peu autre chose. Et c'est vrai que les commentateurs se sont battus hein, sur quelle interprétation faut-il donner à cette toile que certains pensent être attachée par les quatre coins. Mais ce n'est pas ce que le grec dit. Le grec ne parle pas de quatre coins qui sont comme ça, mais de quatre coins qui sont plutôt tendus vers la terre. Donc, comme oui, si oui, la nappe était là et puis les quatre coins touchent le sol. Et ça vous fait penser à quoi, quatre? C'est l'image est importante. Mais dans la Bible, c'est quoi le chiffre 4? Le chiffre de la terre, tout simplement. De l'humanité. Donc, comme les quatre points cardinaux, par exemple. Hein. Donc l'idée, c'est une idée bien ancrée que la révélation, là, elle s'adresse aux humains. Elle s'adresse à la terre entière. Bon, c'est une première chose. Alors après, on peut se battre sur le vocabulaire qu'il faut utiliser. Est-ce que c'est une toile? Le grec dit un objet comme une toile. Ça veut dire que pour Luc, c'était déjà difficile d'expliquer la vision en elle-même. D'accord? Donc ils ont choisi le mot objet pour dire c'est quelque chose comme une toile tendue, si vous voulez. Et d'ailleurs, la preuve que ça ne peut pas être une nappe reliée aux quatre coins, c'est quoi? Même si on n'a pas le grec sous les yeux. Si la toile avait été, vous voyez, suspendue comme ça, avec les quatre coins. On
ne peut-être pas descendre.
Si, on pourrait. Voilà, exactement. On n'aurait rien vu de ce qu'il y a dans la toile, dans la nappe.
Je ne la voyais plutôt attachée, étendue, tu vois.
Ah, l'idée, c'est ça. Hein. C'est l'idée qu'elle est quand même étendue, de manière, et touchant la terre, de manière à concerner la terre. et pour qu'on y voit ce qu'il y a à voir, que Pierre puisse voir ce qu'il y a à voir, ok. Donc, on se rend compte, c'est jamais si facile que ça de traduire dans nos traductions, dans n'importe quelle langue. Difficile de traduire parce qu'on peut se tromper sur le sens des choses. Alors, c'est vrai que si la Bible nous racontait tous les 5 chapitres une histoire de toile, on en saurait un peu plus, vous voyez. Mais voilà, on est obligé de faire avec. Là, Luc, il essaye de nous faire comprendre de quoi il s'agit. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette toile, alors?
Tous les animaux.
Quoi donc?
De la terre et du ciel. De la terre et du ciel, pas de la mer. Évidemment, c'est difficile. Non, ça n'aurait pas pu être difficile.
Quadrupèdes, ok. Quoi d'autre? Reptiles, on a dit.
Et oiseaux.
Et les oiseaux.
Et les oiseaux. Et qu'est-ce qui manque là-dedans? Alors, ce n'est pas tous les animaux.
Les poissons.
Ah ah. Et pourquoi les poissons ne sont pas là?
La mer, n'est-ce pas, l'endroit...
On pourrait dire ça, mais plus simple.
Plus simple.
Ces animaux qui sont sur la toile.
Ils sont vivants.
Ah voilà. Donc les autres vivent dans l'eau. Si on les sort de l'eau, ils meurent. Et s'ils meurent, ils ne sont donc pas vivants. Or, sur la toile, il n'y a que des êtres vivants. La preuve, c'est l'ordre qui est donné à Pierre.
Tue et mange.
Donc les animaux sont vivants. Donc les poissons en sont exclus pour l'instant, en tout cas. Mais la vision décrit donc tous les autres animaux possibles. Et comment avez-vous compris dans ces animaux, est-ce qu'il n'y a que des animaux impurs?
Non,
il y a de tout. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème, parce que ça veut dire qu'il y a un mélange de pur et d'impur.
Pour Pierre.
Ah oui.
Et mais, pour les juifs, en général.
Pour tout juif, en tout cas. Si tu vois ça, tu te dis, oula, c'est... En plus, on me dit qu'il faut tuer et manger, donc de manière indistincte. Vous voyez, l'ordre de Dieu, dans cette vision, c'est pas « tue parmi les animaux purs celui qui a envie de manger ». Non, c'est « tue, indifférencié, et mange ». Mais pire que ça...
Tu ne trouves pas que, comme ces animaux étaient mélangés, les impurs pourraient mettre...
De toute façon, la souillure est pour tous les autres.
Oui, donc ils pourraient même faire... les animaux qui sont purs, impurs.
Exactement. Parce que même au temple, quand il s'agissait des moutons, il fallait déjà faire des choix.
Exactement.
Tu ne pouvais pas offrir un mouton qui avait une tache, ni un mouton qui a une patte qui est malade.
Parce que le contact,
ça... Voilà. Donc, tout ce qui n'est pas pur rend le reste impur. Et donc, du coup, tout ce qui est dans la nappe est devenu impur, d'une certaine manière. Donc, quoi qu'ils choisissent, même s'ils choisissaient un animal apparemment pur, il y aurait eu souillure, malgré tout. Bon, mais beaucoup plus intéressant encore que ça, c'est au verset 13, l'ordre qui est donné. Alors, dans toutes nos traductions, quasiment, on trouve « tue et mange », mais en fait, le grec dit « sacrifie et mange ».
Oui, c'est
vous imaginez, ah oui, c'est pire. Parce que sacrifier un animal impur, sacrifier à Dieu, sous-entendu, ça c'est quand même l'horreur. C'est vraiment le truc à ne pas faire quand on est juif et qu'on veut respecter la loi. On a un peu l'impression que la vision qui est adressée à Pierre veut, en utilisant le verbe sacrifier en tout cas, renforcer l'idée du respect des lois. Donc, moi, Dieu, je te dis que tu peux manger de tout. C'est ça que dit, en fait, la vision. Donc, tout ce qui est notion pure et impure devient, d'une certaine manière, caduque. Mais pour un gars comme Pierre, qui a toujours respecté la loi, comme d'ailleurs la plupart des Juifs, et notamment le contenu de Lévitique, je pense à Lévitique 11 en particulier, comment pourrait-il manger un animal souillé ou un animal impur? C'est impossible. Et d'ailleurs, vous le voyez, la réaction viscérale de Pierre. Qui est d'ailleurs la même que celle d'Ézéchiel. Vous savez ce qui est arrivé à Ézéchiel? Dans les passages qu'on n'a pas lus. Hein. Mais Ézéchiel 4, par exemple, dans les versets 13 à 15, Ézéchiel a une vision. Et Dieu lui dit, ben voilà, pour faire comprendre à Israël où Israël en est, tu vas devoir confectionner du pain avec différents éléments, pas que du blé. Tu vas confectionner du pain et tu vas le cuire avec des excréments humains. Ça aurait été de la bouse de vache, ça aurait encore fonctionné, mais là, franchement, cuire du bon pain avec des excréments humains séchés, ça, c'était l'horreur. Et Ézéchiel rentre tout de suite, lui aussi, dans « non, il n'en est pas question ». Jamais je ne vais faire ça. Et finalement, dans le débat avec Ézéchiel, c'est Ézéchiel qui gagne. Finalement, Dieu change un tout petit peu d'avis et lui permet de faire un petit peu autrement pour ne pas aller trop dans la provoque. Mais c'est aussi ça le prophétisme. Hein. Quand Dieu adresse une mission à un prophète, il lui fait faire des trucs de ouf. Hein. Des trucs que personne ne ferait, n'oserait faire. Mais Dieu leur dit, voilà, maintenant tu vas faire comme ça et ça, ça va choquer Israël. Et Israël va commencer à réfléchir. Et donc ici, on est un peu dans une vision provocatrice d'une certaine manière de la part de Dieu, mais provocatrice à bon escient. C'est-à-dire le but, ce n'est pas de condamner Israël ou de faire en sorte qu'Israël se repente. Le but, c'est de faire comprendre à Pierre et aux apôtres qu'ils vont devoir œuvrer avec les impurs, avec ceux de l'extérieur, ceux qui ne sont pas conformes, entre guillemets. Et il le prépare donc à la rencontre avec Corneille, entre autres. Hein. Alors, la réaction de Pierre. Alors, première chose qu'on peut peut-être tirer comme conclusion ici, c'est que quand il dit « nullement, Seigneur, jamais je ne vais faire une chose pareille », ce refus catégorique est tiré de la loi. Il continue à faire référence à la loi. Ce qui nous indique d'ailleurs bien que les judéo-chrétiens restaient toujours très attachés aux prescriptions mosaïques. On l'avait déjà vu pour ce qui est des prières au temple et des sacrifices. On le voit aujourd'hui sur ce qui est des prescriptions alimentaires. Et on peut se dire, oui, ben Pierre aurait pu choisir de tuer, de manger uniquement un animal déclaré pur, mais sa réponse nous montre cependant qu'il a bien compris que le commandement, c'était de manger n'importe quoi, y compris l'animal souillé par ceux qui sont impurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va très loin. Et qu'est-ce qu'il en... Lui ne déduit pas encore, Pierre. Il ne comprend pas cette vision et il ne comprend pas l'injonction de Dieu, en tout cas de la voix qu'il entend. Mais ça veut clairement dire qu'il n'y aurait donc plus de distinction à faire entre pur et impur. Ça, il va le comprendre un peu plus tard. La réaction de Pierre, ben voilà, elle est celle de tout juif, finalement, qui n'aurait pas pu entendre quelque chose comme celle-là. D'ailleurs, on sait aussi que la plupart des juifs préfèrent mourir que de déroger à la loi. Donc, je pense à Daniel, par exemple, prophète parmi les prophètes. Daniel, lui aussi, au chapitre 1 de Daniel, il est un petit peu obligé de manger, enfin, on les obligerait à manger des mets de la table royale qui ne sont pas cachers. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez de cette histoire? C'est une histoire assez intéressante aussi. Daniel dit, moi, je préfère mourir.
Il arrive à mettre avec lui l'intendant qui exactement, va faire donc manger les...
Et il lui propose un deal. Ouais. Et il dit, voilà, pardon. Parce que l'intendant a peur qu'il tombe malade s'il ne mange pas les mets du roi, s'il ne mange que des légumes et des fruits. Et Daniel lui dit, mais non, on fait un essai pendant 10 jours. Oui. 10 étant le chiffre en général des épreuves. Hein. Mm-hmm. Pendant 10 jours, tu nous donnes que des légumes et tu verras bien, tu jugeras. Si après 10 jours on n'est pas bien et que tu as peur pour ta place, hein, tu as peur pour ta vie même, à cause du roi, ben, on changera d'attitude. Mais là pour l'instant, nous on ne veut pas manger la viande et tous ces machins qui ne sont pas cachers. Ok, c'est ce qui se passe.
Dit qu'ils ont plus d'embonpoint après.
Ah oui, ils sont mieux que les autres.
Ils ne mangent que des légumes. Ouais. Ils peuvent maigrir, quoi.
Pas toujours.
Oui, pas toujours.
Bon, c'est vrai ça. Parce que ma nièce est végétarienne et.
Elle est pas mince. Elle
est pas sûr. Je crois que c'est une question de corps.
Andy, tu vois bien qu'il est végétarien. Andy.
Oui, ils sont complètement végétariens depuis des années. Hein.
Toute sa vie. Il était plein et toujours en forme.
Il fait des marathons, il fait des 40 bornes.
Oui. Bon.
Voilà.
Ça n'a pas l'air de...
Donc, mais bon, chacun... Est...
Bon, des carottes demain, alors.
Tu vas avoir un bon teint.
Alors, sur ce refus, que se passe-t-il ?
La voix se fait entendre.
Ah.
Trois fois.
Okay. Lui dit encore trois fois.
Oui, il lui faut toujours trois fois, Pierre. Hein.
Pierre, oui.
Il y a peut-être un clin d'œil, effectivement.
Oui, quand même.
Et trois fois, ça veut dire quoi, en fait, d'après vous ?
La plénitude.
Oui, mais globalement, face à une expérience comme celle-là, pourquoi répéter trois fois ?
C'est vraiment une insistance. Oui. Je veux cela. Ouais.
Donc, une manière de faire comprendre que c'est important, qu'il faut insister sur ce point, et que Pierre va devoir comprendre la vision. Parce que jusque-là, il n'a toujours pas compris le sens de la vision. Et cette voix lui dit quoi ? C'est une drôle de phrase, d'ailleurs. Enfin, dans la top, c'est un peu bizarre.
Que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé.
Voilà.
C'est ça qu'il doit comprendre.
Alors, c'est assez dingue, parce que le grec est encore plus dur, puisqu'il dit « Ce que Dieu a rendu pur, toi ne vas pas le déclarer souillé. Mmh. » Ou « Toi ne le souille pas. » Ça dépend comment on veut traduire la phrase du grec. Ça veut dire que finalement, Dieu lui dit « Mais tout ce que tu as vu là, c'est pur. »
Il doit être complètement désolé.
Ah, complètement, ah oui, ça c'est clair. C'est à ne rien comprendre. Pour un juif pieux, c'est incompréhensible, quoi, hein, quelque part. Mais nous, on sait, évidemment, a posteriori, que la rédemption du monde qui a été opérée par Jésus, ben, elle joue donc un rôle dans l'abrogation, si vous voulez, de la différence pure-impure. Puisque Dieu sauve des pécheurs, n'est-ce pas ? Dieu sauve des païens, Dieu sauve des impurs, des infidèles, etc. etc. Et il y a donc... Il y a donc eu, auparavant, un peuple saint, élu, qui était Israël. Il y aura maintenant des saints dans toutes les nations considérées autrefois comme impures, par Dieu comme par les Juifs. Parce que jusque-là, les païens, ce n'était pas le peuple élu. Hein. Donc maintenant, on est tous un peu sur le même horizon. Aussi, on sait que les païens mangeaient des animaux impurs. Et donc, la vision est d'autant plus dérangeante que Pierre sait très bien que les autres font autrement et que tous les païens mangent du porc, etc. etc. Donc, l'ouverture de l'Alliance, justement, à toutes les nations du monde, entraîne qu'il n'y a plus rien d'impur en soi. Que Dieu déclare qu'il n'y a plus rien d'impur. Et ça, c'est quand même compliqué et difficile, même si tu comprenais ça, là, au moment où Pierre le vit, ben, il ne sait pas l'appliquer. Il peut le comprendre intellectuellement, mais continuer à ne pas vouloir, à croire cela impossible. Comment croire que les païens peuvent être inclus désormais dans l'Alliance, que les païens vont pouvoir entrer dans l'Alliance et que l'église du départ, qui était l'église des Juifs, va devenir une église judéo-chrétienne, si vous voulez, hein, pour reprendre des termes qu'on connaît, nous. Difficile d'accès, cela. Et pourtant, c'est déjà ce qu'avait enseigné Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un épisode dans Marc 7, dans les versets 14 et suivants. Alors, on va quand même peut-être le lire, parce que ça vaut la peine. Pour bien se retremper sur le fait que leur propre maître, donc Rabbi Yeshua, avait déjà enseigné des choses un peu bizarres. Donc, Évangile de Marc, chapitre 7, à partir du verset 14. Marc, chapitre 7.
Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, il entend. »
Mais j'avais jamais fait le rapport. Ah,
Donc déjà on sait que Jésus avait dérogé à certaines règles sur le Shabbat, par exemple, en disant que le Shabbat est fait pour l'homme et pas l'inverse. Bon, peu importe. Mais ici, ça va beaucoup plus loin. Parce que dans le judaïsme, tu ne peux pas manger sans t'être préparé, laver les mains, etc., laver les ustensiles. Il y a toute une série de règles à respecter. Et Jésus a l'air de dire, mais non, ça n'a aucune importance, finalement. Ce qui souille réellement l'homme, c'est ce qui sort de lui. C'est ce qu'il fait dans la vie qui pose problème. Ce n'est pas ce qu'il ingère, vous voyez.
Est-ce que tu ne vois pas aussi qu'il souligne que le problème de l'homme, c'est le cœur, c'est de l'intérieur, pas de l'extérieur.
Exactement.
Parce qu'il va montrer que c'est dans son cœur que sort les mots impurs, les pensées. Il a énuméré la liste des choses. Le problème de l'homme, c'est pas ce qui est de l'extérieur, mais ce qui est de l'intérieur. C'est le cœur de l'homme qui est un problème. Bon, je pense que c'est...
Alors du coup, ça nous donne peut-être une petite indication sur pourquoi il y a ce mélange d'animaux purs et impurs sur cette toile. Les purs, peut-être, révèlent quelque chose qui aurait trait aux Juifs, ceux qui étaient considérés par Dieu comme purs, et les animaux impurs qui sont là sont les païens, en définitive. Et ça voudrait donc dire que si sur la toile, on peut choisir de manière indifférenciée Juifs et païens sur la même toile, dans la même zone, dans la même église, si vous voulez, ça veut dire donc qu'il y a bel et bien une abrogation de la différence qui existait jusque-là, qui existe d'ailleurs encore pour le judaïsme d'aujourd'hui. Être goy, ce n'est pas être juif, et vice-versa.
Ça donc, me fait penser au verset quand Jésus dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais qui doivent venir ». Il annonçait déjà là que à l'église, ça allait être le rassemblement des purs et impurs, Juif, non juif.
Aussi, Jean 17, quand Jésus priait pour les disciples, il a dit, je ne prie pas seulement pour ce masse, mais il y a d'autres. Jean 17 souligne qu'il y a d'autres que vont entendre à travers ces disciples. Alors, les autres qui disaient, c'est
exactement. C'est juif. Et on voit donc la révélation qu'on avait trouvée en acte 1 sur quel était le but du Seigneur. C'est que toutes les nations soient touchées par la bonne nouvelle. Et donc, c'est ce que Dieu ne cesse, on l'a vu déjà dans 2-3 textes précédents, n'a de cesse de mettre en place le cadre dans lequel va pouvoir s'exercer l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, Pierre le comprendra. On verra dans les versets 34-35 du chapitre 10, grâce à la rencontre avec Corneille, et à la révélation que Corneille lui fait de sa propre vision, que Pierre change et va commencer alors à oser proclamer clairement que les païens sont destinés à entrer dans l'Église. Mais voilà, donc c'est quand même important, notamment au chapitre 11, où il va convaincre tous les autres apôtres de l'utilité d'accepter la présence des païens dans la communauté chrétienne, notamment des Romains, ce qui n'est pas triste, voilà. Et alors, on se retrouve avec un Pierre quand même très dubitatif. Hein, puisque... alors, on nous dit au verset 16 que 3 fois, il a fallu que la vision se répète avec l'ordre, etc. Que manifestement, Pierre ne comprend pas le sens de cette injonction. Mais le verset 17 nous le dit clairement. Pierre essayait en vain de s'expliquer la vision. Bon, je ne sais pas quelles sont vos traductions à vous, mais on voit bien que ça pose problème. Il y a un vrai problème de compréhension intellectuelle de ce qui se passe et de l'ordre qui lui est donné. Donc perplexité, vision dérangeante, on va dire, dont le sens lui échappe. Alors, moi, j'ai voulu qu'on étudie jusqu'au verset 18 pour qu'on ait déjà un élément de réponse, en fait. Parce que ce qui se passe à partir dans le verset 17, c'est quand même de nous dire que d'un côté, Pierre ne comprend rien, mais que l'arrivée des autres, c'est la solution. Je ne sais pas si vous le comprenez bien comme ça dans votre traduction, mais l'idée, c'est que l'arrivée des envoyés de Corneille tombe à pic, puisqu'ils sont la clé d'interprétation de la vision. Donc c'est marrant que Dieu ait choisi l'heure, avec l'idée de « j'ai faim hein, », en même temps t'offre à manger des trucs imbouffables, et puis en même temps c'est l'heure d'arrivée des trois autres, des envoyés de Corneille. Vous voyez un peu le timing divin qui fait que tout concorde à un moment donné. Et donc on s'aperçoit que l'arrivée des envoyés de Corneille, c'est la solution à l'énigme, comme le dira Pierre lui-même, et je vous invite à le lire d'ailleurs maintenant, un peu plus loin dans un texte qu'on n'a pas étudié, versets 28 et 29, où il dit... 28, il déclara. Donc c'est Pierre qui parle. « Comme vous le savez, c'est un crime pour un juif que d'avoir des relations suivies ou même quelques contacts avec un étranger. »
C'est fou.
« Mais à moi, Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. Voilà pourquoi c'est sans aucune réticence que je suis venu quand tu m'as fait demander. » Donc c'est à Corneille qu'il s'adresse. Alors, c'est quand même très intéressant de voir que Pierre lui-même explique comment il a compris, comment finalement il a pu comprendre la vision. Alors on s'aperçoit donc que le plan de Dieu, ce n'est pas de pouvoir manger ou non des animaux impurs, c'est pas ça qui est la clé d'interprétation, que ça dépasse de loin cette réalité matérielle, puis-je manger un porc ou autre chose. La toile immense représentait donc le monde dans lequel nous vivons, l'humanité. L'ensemble des animaux, purs et impurs, représentant à la fois les juifs et les païens. Et ces païens que Dieu lui-même souhaite faire entrer dans la nouvelle alliance. Ces païens que Pierre lui-même va devoir rencontrer, à partir du verset 28 en tout cas. Et cette vision a donc été bien nécessaire pour que Pierre et les apôtres ensuite ne s'opposent pas au plan de Dieu. C'est-à-dire qu'ils eux-mêmes font de la vision divine quelque chose qui leur appartient, qu'ils peuvent mettre en pratique et aller de l'avant donc dans l'évangélisation du monde. Et puis un dernier petit détail qui est intéressant dans le verset 17... Si je ne me trompe pas, en tout cas de verset, je retourne à mon texte. Et donc, comme je vous le disais, moi j'ai le texte suivant. Pierre essayait en vain de s'expliquer à lui-même ce que pouvait bien signifier la vision qu'il venait d'avoir. Quand justement les envoyés de Corneille, qui avaient demandé ça et là la maison de Simon, Simon le corroyeur sous-entendu, se présentèrent au portail. C'est assez intéressant parce que l'explication que donne Luc, c'est de dire que dès que les envoyés arrivent, quelque chose se passe chez Pierre. En même temps, la fin du verset 17 nous parle d'un portail et le mot utilisé en grec n'est pas le mot porte, c'est-à-dire le mot de la porte de la maison. Le portail dont il est question, ça indique une espèce de portique, si vous voulez. Un grand portail extérieur. Donc il faut supposer que la maison de Simon le corroyeur était une espèce de concession fermée, avec une maison quelque part, mais avec une espèce de cour, ce qui peut s'expliquer par les travaux qu'il fait. Il fallait des carcasses d'animaux, etc., etc. Donc il fallait de l'espace. Et il y avait un portail extérieur, qui sans doute n'est pas fermé. Hein, ça ne veut pas dire qu'il est fermé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe dans le texte. Parce que la mention du portail par Luc, de nouveau, c'est un détail dont il aurait pu se passer. On n'avait pas besoin de ce détail. Mais le détail vaut son importance parce que, d'une certaine manière, on voit au verset 18, au verset qui suit, que nos trois envoyés ne franchissent pas le portail. Alors que je suis sûr que le portail est ouvert. Tout un chacun peut entrer, sortir, amener une carcasse d'animal, etc. Il n'y a pas de problème. Et d'après vous, pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi se mettent-ils à crier?
C'est pas parce que c'est chez des juifs qui sont...
Donc,
ils n'entrent pas.
Ça correspond bien à ce qu'on a vu précédemment chez Corneille. Tous ceux qui sont chez Corneille respectent les juifs. Et en aucun cas, ils ne vont mettre leurs amis juifs dans l'embarras parce qu'en tant que païens, ils oseraient entrer dans une entité juive. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça va jusque-là. Les envoyés de Corneille, qui sont d'ailleurs tous des croyants, hein, croyants en l'Éternel, au Dieu d'Israël, ne franchissent pas le portail par respect de tous les autres qui habitent là et qui sont juifs. Donc ils ne vont pas obliger les juifs à quelque chose s'ils n'y sont pas invités. Et du coup, ils crient.
Parce que certainement, ils connaissent pas.
Que Pierre a logé chez Simon, un tanneur, qui était impur aussi.
Non, c'est pas le tanneur qui est impur.
C'est son métier.
C'est en tout cas ce qui se trouve plus ou moins dans la concession qui peut poser problème. Le carcasse d'animal, les cadavres, etc., les os, les restes, même les peaux.
Oui, donc lui, il était juif quand même.
Donc on voit déjà, oui, et on voit déjà que ce soit Simon le corroyeur ou que ce soit Pierre, on déroge déjà à certaines règles.
Parce que dans l'ancienne alliance, quelqu'un qui avait été souillé par une carcasse devait se purifier. Exactement. Pour être de
en tout cas jusqu'au soir.
Il y avait toutes des règles dessus.
Il était privé de relation.
En contact avec un cadavre mort, oui, évidemment, un cadavre
mort.
Une croix morte, il y avait purification.
Que ce soit animal ou homme.
Obligatoire.
Oui, ouais, tout à fait. En tout cas, jusqu'au soir, tu ne pouvais pas avoir d'interrelation. Physique avec des gens. Quoi.
Du coup, les envoyés auraient pu vouloir aussi éviter le côté impur.
Oui, mais eux sont peut-être moins attachés,
respect,
heureusement.
Mais ici, ils respectaient la loi.
Oui, ils respectent la loi, de toute façon. Mais ici, on s'aperçoit bien qu'en fait, je pense que c'est vraiment de la déférence par rapport au milieu juif dans lequel ils doivent aller délivrer un message. Et donc, on les voit crier du portail pour essayer d'interpeller, savoir si Pierre est vraiment là, si le Pierre qu'ils cherchent, Simon Pierre, s'il est vraiment présent. Et il crie à distance, pas seulement parce qu'il y a de la distance, mais surtout parce qu'ils ne veulent pas entrer s'ils n'y sont pas invités. Et on verra dans la suite du texte qu'ils vont y être invités par Pierre. Donc de nouveau, Pierre va de nouveau déroger une règle en les faisant entrer dans la concession et puis en discutant avec eux. Et puis après, en partant avec eux. Hein. Mais ça, on verra prochainement, en tout cas.
C'est impressionnant de voir que le respect de Dieu entraîne automatiquement le respect pour l'autre. Et je pense à Abraham, ça m'a toujours frappé, cette histoire, quand Abraham va demander pour obtenir le prix du terrain où il va enterrer Sarah, dans un territoire païen, il y met tous les gants. Hein. Et les non-juifs répondent avec énormément de politesse. Et peut-être qu'avec le temps, au fil des siècles, on a perdu un peu cette politesse aussi. Ce respect de l'autre, d'entrer dans des protocoles, entre guillemets, qui respectent et qui élèvent l'autre.